Jean-Marie Wary, bonjour.
Bonjour.
Jean-Marie, vous êtes guide naturaliste pour 1000 traces. On a l'habitude de faire un peu le point ensemble, autant sur les activités proposées par l'association que sur votre veille sur la population des loups dans le Vercors. Et aujourd'hui, on se rencontre parce que vous avez découvert dans votre jardin une louve morte.
Oui, effectivement. Alors, c'est il y a quelques jours, puisqu'il fallait attendre les analyses, mais à l'occasion d'une promenade autour de chez moi dans le cadre du confinement, j'ai relevé avec Véronique, ma compagne, qu'il y avait une carcasse de loup à 80 mètres de notre maison. Et donc, j'ai fait mes premières analyses sans rien toucher et j'ai appelé la police de l'environnement, la police de la chasse et de l'environnement, qui s'appelle l'OFB maintenant, pour qu'ils viennent récupérer l'animal et faire des analyses. Maintenant, on a les analyses, donc ce n'est pas un tir à balle, mais c'est une bête qui semble a été massacrée par des chiens molossoïdes, des chiens assez gros, avec une mâchoire assez large, mais pas autant de puissance que les loups dans la mâchoire. Elle était pleine d'hématomes suite à cette autopsie, et elle serait morte d'une septicémie. Le petit truc qui est un peu bizarre, et que là je vais relever maintenant, c'est que suite à toutes mes analyses, mes photos, mes observations avant que la police vienne, et qu'il emmène le cadavre. Et disons que j'ai relevé beaucoup de choses qui me permettent de dire que cette louve a été posée comme une provocation.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce que vous avez relevé pour pouvoir dire que ce serait une forme de provocation?
Suite à toutes les photos, sans avoir rien touché, hein, parce que je veux bien rester dans le cadre de la loi pour que les choses soient très claires, j'ai remarqué que les deux paires de pattes étaient jointes comme si on l'avait saisie pour la porter. Elle a été posée, elle est posée à un endroit à découvert, alors que si un animal sauvage est blessé, souffrant ou malade, souvent il va se cacher au bord de la rivière, dans la boue, sous les buis, dans la forêt, mais pas en pleine clairière et surtout pas à 80 mètres d'une habitation. Même si on a déjà vu les loups passer autour de l'association, en hiver ou même en plein été, puisqu'on est dans leur territoire, là c'était un peu mal fait. On a vu qu'il y avait aussi, puisque avec Véronique on a fait le tour de la bête, à regarder tous les détails, elle avait très peu saigné à cet endroit-là, puisqu'il semble qu'elle ait perdu du sang à une blessure qu'elle avait sous la gorge, sans être perforée. La seule morsure qui a perforé, c'est au poitrail. Et donc, ce qui a créé plutôt des hématomes et ce qui a entraîné la septicémie. Voilà. C'était une jeune femelle. Donc, ce qui est à peu près réconfortant, c'est pas la mort de cette louve qui est réconfortant, c'est que ce n'est pas un loup dominant de la meute. C'est pas un loup dominant de la meute des hauts plateaux, donc un leader, mais un subalterne. Moi, c'est très grave pour moi, même si c'est pas un acte de braconnage direct, je sais qu'il y a une politique générale de certains d'avoir des chiens de protection qui sont des chiens turcs et qui ont plutôt tendance à poursuivre les loups dans la forêt. Donc c'est ce genre de chien qui est svelte, qui est beaucoup plus agressif, qui n'a pas du tout le même mode de protection d'un troupeau. Et donc, mais ce que je dis, je n'affirme pas que ce sont des chiens vraiment qui étaient autour d'un troupeau de moutons. Mais bon, il y a peu de gens qui ont des bergers d'Anatolie dans leur salon encore. Hein, voilà.
Alors, justement, le berger d'Anatolie, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus dans les alpages du Vercors. Quelles sont ses principales différences par rapport au patou? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les bergers vont davantage utiliser un berger d'Anatolie qu'un patou?
Alors déjà, je vais vous reprendre, ce n'est pas le chien du berger. Il faut savoir que c'est souvent le chien de l'éleveur. L'éleveur fournit les chiens de protection avec une partie du troupeau, la totalité du troupeau. Donc la différence entre ces deux sélections de chiens, puisque ce ne sont pas des espèces, hein, je vous rappelle que tous les chiens descendent du loup, et que c'est un chien qui a été fait avec la culture turque. C'est le chien de protection qui a été fabriqué dans la région de la Turquie. Hein, comme le montagne des Pyrénées est plutôt le chien qui a été fabriqué dans la région des Pyrénées. Je dis région pour pas mettre de frontières. C'est pas un pays qui a fabriqué. C'est une région à chaque fois qui a fabriqué une sélection de chiens. Après, il y a le Marraine des Abruzzes, c'est en Italie. Il y a le Charpaninas. Enfin, il y a toutes sortes de chiens qui ont été fabriqués. Le Heidi au Maroc. Ce sont des chiens qui ont été fabriqués en fonction de la culture du coin et de l'environnement. Et des besoins des pasteurs, des bergers, des éleveurs du coin. Et donc en Turquie, on a fabriqué un chien beaucoup plus agressif parce que là-bas, il y a des combats de chiens. Comme on avait traditionnellement, comme il y a encore sous le manteau, des combats de coqs en France, et ben là-bas, en Turquie, il y a des combats de chiens. Donc le chien de protection du troupeau, le chien molossoïde, se retrouve face à des chiens de combat. Donc il faut qu'il soit plus performant. Voilà. Et donc là, en France, principalement, on a été chercher ce genre de sélection de chiens pour avoir un chien plus agressif sur les loups. C'est-à-dire, je simplifie, ce n'est pas le cas de tous les éleveurs, loin de là, mais on utilise cet outil pour tuer du loup. Voilà, puisqu'il va le poursuivre jusqu'en la forêt. Sur les hauts plateaux, la meute a subi 2 années consécutives l'agression par un berger d'Anatolie, qui est gentil comme tout, qui est une femelle, et qui a tué 2 années de suite un loup qu'elle a ramené à la bergerie, qu'elle a massacré. Voilà. Donc c'est des loups qui font en moyenne 25 kilos, et ces chiens molossoïdes de 50-60 kilos, 45-60 kilos, vont être capables de les rattraper et de les fracasser. Voilà.
Et le patou n'en est absolument pas capable.
Si le patou en est capable, mais il est moins svelte. Et de toute manière, il a été élevé d'une certaine manière, il a été construit d'une certaine manière de rester au troupeau. Un patou peut faire un écart de 100 mètres du troupeau, quand il est bien monté, comme on dit, et revenir au milieu du troupeau. Alors que le berger d'Anatolie a toujours tendance à tourner autour du troupeau, bien loin, et des fois d'aller à plusieurs kilomètres du troupeau. Voilà.
Et pour revenir du coup sur cette louve donc, qui a été laissée de manière très visible. Hein, pour,
provocatrice, voilà. Oui.
Est-ce que finalement, malgré la possible provocation, est-ce que ce n'était pas la meilleure des choses à faire pour qu'au moins il puisse y avoir une trace, en tout cas une prise en compte de cet incident et qu'on puisse en tirer des conclusions?
Exactement. À la limite, c'est encore une chose positive, malgré la mort de cet, j'ose dire, individu loup, qui était une louve, qui avait 4 ans, qui était non gestante, 24 kilos, hein, 24-25 kilos, donc en pleine forme d'ailleurs. Et oui, de l'avoir là mis en provocation, alors ça c'est mon affirmation à moi avec mes connaissances, je rappelle que j'ai 25 ans de suivi loup sur le Vercors et que je commence à bien maîtriser ce qu'est une meute de loup, comment ça vit et puis tous les détails, les interactions qu'il y a. J'ai travaillé énormément sur l'élevage ovin aussi, donc je connais pas mal ce dossier. Hein. Je pense être dans les 10 spécialistes en France du retour naturel du loup en France. Et pour cette louve, je dis que ça nous sert. Voilà, j'en parle assez techniquement. On l'utilise. Ça desservira les gens qui voudraient travailler sereinement autour de ce dossier. Hein. Moi, à partir du moment où un loup attaquerait un troupeau, je veux bien qu'on parle d'essayer d'effarouchement, de s'il s'accroche, d'arriver, il y a 15 ans, j'avais, à FNE, à France Nature Environnement, j'avais été partisan de dire que les bergers pourraient tirer un loup qui attaquerait leur troupeau. Mais on n'en est plus du tout là, puisque maintenant, on tire le loup n'importe quand, n'importe où. Voilà. C'est plutôt qu'on va en faire une nouvelle espèce chassable. Et donc là, cette louve, c'est des dommages collatéraux. On a été, on a utilisé le chien pour encore réguler cette partie de la biodiversité, c'est-à-dire ces superprédateurs qui sont capables de réguler les gros ongulés et de, eux, tuer plutôt les animaux en mauvaise santé, parce que c'est plus facile à attraper, et donc de gérer le sanitaire des gros ongulés. Donc les loups sont faits pour ça. Et puis au début de l'arrivée du loup, on m'a critiqué, puisque je travaillais dès le départ sur le dossier du loup, dès son arrivée en France et sur le Vercors, et on a raconté toutes sortes de choses par rapport à l'éventualité d'attaque de loups sur être humain. Là, on voit qu'il y a des loups qui se sont échappés du parc dans le sud-est de la France suite aux inondations. Ces grands loups canadiens, qui sont bien plus grands que les nôtres, n'ont pas fait d'attaque sur être humain. On attend toujours ce qui nous était promis, des attaques de loups sauvages français de volume comme cette louve. On n'a toujours pas de constat. Ça, c'est des histoires, c'est des contes, c'est des légendes, mais ça n'existe pas, à part le loup enragé. Donc, on est dans une ambiance où on utilise le loup comme un bouc émissaire. On en a eu bien d'autres, qu'il soit même pas que animal, et donc on est plutôt sur vouloir entretenir, de pouvoir dégommer de la faune sauvage.
Et justement, vous parlez de vos 25 ans d'expérience de suivi du loup dans le Vercors. Alors aujourd'hui, en quelques mots, on en est où ? Comment ça se passe ? De mémoire, on en était resté à 3 meutes. On en est où aujourd'hui ?
Alors sur le plateau, hein, c'est-à-dire à l'altitude de 1000 mètres, qui peut un peu couler le long des contreforts, mais autour, on a, dans les contreforts et autour du Vercors, on a aussi quelques meutes. Mais je ne parlerai que de celle des hauts, des plateaux, c'est-à-dire la meute des hauts plateaux, qui est la historique, celle qui est où une louve est arrivée en premier, enfin de ce qu'on a observé, hein, et qui a créé cette meute maintenant qui a plusieurs générations de reproducteurs. Et c'est la meute qui se porte le mieux. Après, il y a la meute de la grande forêt de Lente, voilà, qui malheureusement subit des agressions et qui a un peu plus de stress et qui se trouve en moins bonne forme de reproduction et de nombre d'individus dans la meute. Et puis, il y a la meute des Coulmes qui est en train d'augmenter gentiment. Après, il y a quelques meutes qui montent de temps en temps sur le plateau et qui ont plutôt une zone centrale sur les contreforts ou au sud-est, du côté de la frontière avec le 05 et le 38 après le col de Menet, là, ou au col de Menet. Et donc, la situation du Vercors n'est pas dramatique pour les loups, voilà. Mais je parlais au niveau national, on est quand même à 105 loups tués cette année pour des tirs de régulation qui ressemblent plus à des tirs de prélèvement par le monde de la chasse qu'autre chose. Donc, et ça ne ressemble à rien pour la gestion sur l'éventuel problème qu'il y a avec les éleveurs de troupeaux, enfin les éleveurs d'ovins, hein, principalement, grands... parce que la proie de 60 kg d'une brebis est à la mesure de l'attaque d'une meute de loups. Et donc, on s'aperçoit que ces loups ne sont pas forcément friands du troupeau quand il est bien protégé. La preuve, il y a eu des émissions, je ne sais pas comment appeler ces gens-là, mais des donneurs d'alerte qui ont fait voir un tir occasionné par des tireurs de loups, qui sont patentés, hein, et qui ont tué un loup qui refusait, enfin, ou qui ne venait pas sur un troupeau. Et donc, là, je dis, moi, en tant que... En tant que technicien naturaliste du suivi du loup, je dis que ce loup-là, il ne fallait surtout pas le tuer. Un loup qui passe et qu'on voit en infravision, qui passe à côté d'un troupeau et qui ne veut pas se frotter ni aux barrières, ni aux chiens qui sont dedans, ni à l'âne éventuel qui était couché, ça veut dire que ce loup-là, génétiquement, il est en train d'être un loup, on va pas dire végétarien, mais un loup qui ne veut pas aller sur un troupeau. Un troupeau ovin, ça lui fait peur. Donc il fallait surtout pas le tuer pour qu'il soit éventuellement un reproducteur et que sa génétique de trouillard d'un troupeau et de tout ce qu'il y a autour ne soit dans la reproduction de cette meute. Donc malheureusement, ce loup-là, et ça a fait scandale, ce loup-là a été dégommé. Et ce loup-là n'existe pas, avec la génétique qu'il avait très particulière. Et donc, malheureusement, voilà, c'est du tir du n'importe quoi. Quand on a vu depuis des années, de toute façon, le constat, le bilan des tirs, on voit bien que ça ne réduit pas le nombre d'attaques du tout. Au contraire, même, puisque quand on tire à la volée comme ça, un loup qui passe, qu'on a la chance de voir de nuit ou de jour, et qu'on tire un loup qui peut être un leader, ben, imaginez bien, dans une cellule familiale, on enlève le leader, il y a une désorganisation. Si malheureusement, comme c'est arrivé à plein d'endroits, on tire le deuxième leader, mâle ou femelle dominante, donc les meilleurs chasseurs, et donc la meute va se retourner vers ce qui est le plus facile. Donc qu'est-ce qui est le plus facile ? Ben, c'est d'aller sur un troupeau qui est mal gardé, pas gardé, hein, ou même gardé. Mais les loups désorganisés, sans leur leader, sans leur meilleur chasseur, n'iront pas attraper le chevreuil qui court à 60 km/h ou la harde de sanglier qui fait une équipe, une mêlée de rugby, ou le cerf qui fait 150 kg et qui peut les enfourcher.
Jean-Marie Houari, merci beaucoup pour toutes ces informations. Peut-être que pour conclure, on peut reparler en quelques mots de ce stage que vous organisez tous les ans sur le Vercors, un loup, un animal, une passion, qui normalement, il me semble, est programmé en février.
Oui, très bien. Et très bien de me rappeler de pouvoir parler de ça, pas pour inscrire des gens, mais pour dire que de plus en plus, on a régulièrement, chaque année, on ouvre ce stage, un animal, une passion, le loup. Et donc, à chaque fois, je voudrais dire que des gens de plus en plus divers et variés viennent nous rejoindre pour partager, échanger, partager, j'insiste sur ce mot-là. Et on a des bergères, des bergers, des gens de l'administration, des gens des organisations, des départements qui s'occupent d'ENS ou de secteurs environnementaux intéressants, ou de gestion de certains espaces, ou des gens des forêts privés ou des forêts publiques qui viennent avec nous échanger, partager et apprendre ce que nous avons après 25 ans de suivi. On n'est pas des gamins dans le domaine. 25 ans de suivi, c'est quand même assez extraordinaire pour les Français. Je suis, moi, Jean-Marie Houari, ridicule à côté de quelqu'un qui fait le suivi scientifique depuis des années dans le parc des Abruzzes ou au Yellowstone aux États-Unis, puisqu'ils ont toujours eu du loup, ou presque. Mais en France, on a une grosse connaissance par rapport à notre culture, par notre mode d'élevage et par rapport au découpage de comment sont faits nos parcs, nos réserves, nos forêts classées, nos forêts domaniales, pour laisser vivre le loup qui a, je le rappelle, mais il n'est même plus nécessaire de le rappeler. Je crois que les gens qui ont un peu de bon sens veulent bien aller capturer de l'information dans les livres ou sur d'autres supports, vont se faire une idée de même. Le loup n'attaque pas l'homme, là je le certifie maintenant, et en plus le loup est nécessaire à la biodiversité et à la survie de la forêt. Quand un forestier sur le terrain vous parle du loup qui va empêcher l'abrutissement par les cervidés, c'est ultra nécessaire pour la gestion de la forêt.
Jean-Marie Houari, je rappelle que vous êtes guide naturaliste pour l'association 1000 traces et que l'on peut retrouver toute votre actualité sur le site internet www.1000-traces.org. Jean-Marie Houari, merci beaucoup.
Merci beaucoup.